Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Une chercheuse cette année s'est imposée pour la fêter, c'est Tatania Giraud. D'abord, elle a publié un livre magnifique édité chez Tana. Le média sur lequel nous sommes ne me permet pas de le faire voir et de le feuilleter, mais croyez-moi, il est magnifique. Plus de 200 schémas, de cartes, de graphiques, de dessins de fleurs, de feuilles ou de champignons, car Tatiana adore les champignons.
En 1998, à l'âge de 26 ans, vous soutenez une thèse sur le champignon Botrytis cinerea. Lors de votre discours de réception à l'Académie des sciences en 2021, vous rappelez que les champignons représentent des modèles d'études essentiels.
Ils peuvent être des pathogènes destructeurs de cultures, des pathogènes responsables de maladies émergentes, comme le champignon qui décime actuellement tous les batraciens à travers la planète. Mais aussi parce qu'ils sont utilisés par l'homme pour produire de la nourriture assez intéressante, comme le vin et le fromage.
Cette science du champi vous mène directement à l'étude de la biodiversité. Après dynamique et évolution de la biodiversité et des écosystèmes en 2022,
les sociétés humaines ne pourront pas se maintenir avec un tel effondrement de la biodiversité à ce rythme-là, qu'on est absolument dépendant de tous les services dont on tire de cette biodiversité.
Vous publiez l'attention aux vivants en 2024. Aujourd'hui, vous exposez la biodiversité dans sa complexité, insectes, oiseaux, mammifères, poissons, micro-organismes, plantes, ainsi que les interactions entre espèces dont dépend l'équilibre des écosystèmes. Vous rappelez que 28% des espèces sont menacées d'extinction. Vous pointez 5 causes principales, la destruction des milieux naturels, la surexploitation des ressources de la nature, les pollutions de l'eau, de l'air et du sol et en premier lieu celles dues aux pesticides, les bouleversements climatiques et l'introduction d'espèces exotiques dans de nouveaux milieux. Enfin, vous évoquez des solutions globales comme les alternatives à l'agriculture intensive et vous proposez une éthique individuelle, réduire sa consommation de viande ou consommer des produits bio. Bien que les perspectives s'avèrent sombres, vous concluez « Le vivant a une capacité de régénération exceptionnelle si on réduit les pressions qui l'écrasent. »
Aujourd'hui, elle est directrice de recherche au CNRS et poursuit son combat. Ses recherches lui ont valu de nombreux prix. Tous les journalistes spécialisés en environnement connaissent la difficulté à sensibiliser à la complexité de la biodiversité. Tatania Giraud y parvient. Et en plus, elle est capable de prouver à la Gen Z, qui remplace souvent ses messages en les accompagnant par des émoticônes, qu'elle a complètement oublié le vivant, la Gen Z bien sûr, et lui fournit une galerie d'émoticônes très colorées. Alors aujourd'hui, nous recevons Jérémy Di Stefano. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez nous parler d'une exposition qui a lieu au CAUE de Montpellier, Quand la rue prend racine, et qui est encore visible jusqu'au 19 juin. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à s'y rendre. Vous nous rappelez l'adresse ?
C'est situé au 19 rue Saint-Louis, à Montpellier.
À Montpellier. Merci. Et donc, vous êtes, pour une petite présentation, vous êtes paysagiste, doté d'un master en paysage. Paysagiste concepteur, lit-on sur Wikipédia. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, un paysagiste concepteur, c'est un peu un architecte paysagiste pour le grand commun des mortels. C'est un titre qui est protégé depuis pas très longtemps, depuis 2016, la loi sur le paysage, qui vise à protéger et à mettre en valeur ce métier qui était pour l'instant pas encore vraiment reconnu en tant que tel. titre pédagogique de concepteur sanctionne justement ce niveau d'études élevé, presque aussi élevé que celui d'un architecte, parce que l'architecte fait une année en plus pour être habilité à faire de la maîtrise d'œuvre.
Alors, deux questions nous viennent. Qu'est-ce que c'est qu'un paysagiste urbain? Habituellement, on est habitué aux paysagistes, on imagine le Pic-Saint-Loup, on imagine les garrigues, on imagine la forêt, on imagine des gouffres, et subitement, vous vous attaquez à la rue. Et quel est votre rôle en tant que paysagiste urbain, conseiller du CAE, et puis dans la foulée, qu'est-ce que c'est qu'un CAE?
Bien sûr. Alors, un paysagiste, comme je vous ai dit, le paysagiste concepteur, c'est pour le commun des mortels, c'est plutôt l'architecte paysagiste. C'est quelqu'un qui va dessiner des paysages et en concevoir aussi, c'est-à-dire concevoir des jardins, concevoir des espaces publics végétalisés.
Ça, c'est donc dans la ville.
Alors, ça peut être dans différents milieux. On travaille dans tout type d'espace, y compris dans des espaces naturels parfois, qui sont parfois fragilisés, qu'il faut un peu recoudre, réparer, parce que voilà, on a construit une route à côté. Enfin, il y a tout un champ vraiment propre aux paysagistes.
Donc, vous n'aimez pas le terme de paysagiste urbain, je sens.
En fait, on peut se dire, par exemple, paysagiste urbaniste. Dans le sens où on peut toucher aux documents réglementaires, par exemple, à la planification urbaine, en utilisant le paysage comme levier de projet commun entre les collectivités, les habitants, une manière de mettre tout le monde autour de la table, autour de leur perception. Et après, en fait, on pense au paysagiste, souvent, c'est le jardinier. Ce jardinier, Gilles Clément le défend très bien, c'est un très beau terme, il ne faut pas le dénigrer. C'est plutôt pour des raisons marketing, souvent, qu'on utilise le mot paysagiste. Le paysagiste, c'est aussi le peintre.
Alors effectivement, Gilles Clément dit toujours, quand il nous parle du jardin planétaire, il nous dit « je suis d'abord jardinier ». Avant d'être paysagiste, je suis jardinier.
Voilà, c'est ça. Ne pas perdre de vue la dimension du vivant et du savoir-faire et de l'expérience. On a le droit de se tromper aussi.
Vous-même, vous êtes jardinier ?
Voilà, un petit peu, voilà.
Vous avez un jardin ?
J'ai une terrasse, mais je jardine pas mal au CAUE, donc au 19 rue Saint-Louis. Par exemple, pour les rendez-vous au jardin le 6 juin, vous pouvez venir visiter notre cour et toutes les plantes qu'on plante ensemble.
Alors, c'est un jardin urbain ?
Voilà, donc c'est un patio, effectivement, vraiment au départ très minéralisé, qui en 2016 a vu apparaître un arbre, et puis tout un cortège de plantes qu'on entretient, qu'on accompagne, qu'on complète, qu'on bouture. Voilà, c'est ça le jardinage, c'est au quotidien.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CAUE ?
Alors, le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et alors, effectivement pas de Montpellier, mais de l'Hérault. En fait, les CAUE, c'est une association qui est créée par la loi sur l'architecture de 1977 et qui vise à promouvoir la qualité du cadre architectural et plus largement du cadre de vie, puisqu'il y a déjà le E de environnement. Donc déjà en 1977, il y a cette prise en compte quand même de l'environnement, pas que architectural, aussi végétal et naturel. Et donc, il y a quasiment, dans chaque département, il y a un CAUE, et on est basé sur un financement public. Donc, ce qui fait que nos conseils, nos actions de sensibilisation, comme cette exposition, sont gratuits. Ils sont seulement sur inscription, sur demande, mais sont gratuits.
Alors, vous étiez dans un quartier qui était déjà très sensibilisé à cette histoire de la rue prend racine.
Alors, c'est intéressant que vous souligniez ça, parce que justement, nous, on a fait la démarche. J'étais pas encore au CAUE à l'époque, mais j'ai pu constater, parce que j'étais déjà, je faisais partie du public du CAUE avant d'y travailler. On jardine aussi le frontage, c'est-à-dire cette partie qui est vraiment au pied de la façade, qui marque le seuil de l'entrée, et qui, bon, pour des riverains, c'est l'extension un peu de chez eux et la rencontre avec la rue. Et pour nous, c'est aussi la rencontre avec nos publics. Voilà. C'est une incitation aussi à rentrer et à découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur.
Alors, moi, j'ai découvert ce quartier parce que J'allais au marché des Arceaux. Il n'y a pas fait. Beaucoup de marchés sur Montpellier, malheureusement, de vrais marchés. Et donc, on découvre une rue qui, finalement, doucement, au fil des ans, se part de végétaux. C'est merveilleux.
Alors, tout à fait. Le quartier des Arceaux, il est célèbre pour son marché linéaire, ce qui n'est pas habituel d'avoir un marché comme ça, tout droit. Et puis, cette rue enfin, Saint-Louis...
C'est habituel voilà. Partout. Ici, c'est pas habituel, mais voilà. À Paris et partout, oui, vous avez des marchés linéaires.
Oui, et un peu comme façon une rambla, quoi. C'est assez étonnant. Et cette rue Saint-Louis, elle était très stérilisée par vraiment le flux automobile.
Par la voiture.
Et donc, il y a eu cette transformation de la rue avec davantage de place pour les piétons et modes doux, actifs. On n'est pas passif dans la voiture, on est actif à marcher ou à pédaler. Et puis, effectivement, l'apparition de ces végétaux petit à petit, ça vient aussi en lien avec une stratégie urbaine plus grande de mobilité, de rendre ce barreau de flux moins circuler aussi.
Donc vous avez travaillé sur les deux. La circulation et en même temps amener ces végétaux.
Donc pour finir sur le CAUE, nous on a une mission de conseil qui n'est pas directement en prise avec les projets. Nous on vient en amont conseiller les maîtres d'ouvrage, donc c'est-à-dire les clients ou les collectivités, en amont des projets. C'est-à-dire que par exemple à Montpellier, dans l'effectif des fonctionnaires territoriaux qui travaillent à Montpellier, il y a des paysagistes. Donc ils ne font pas appel à nous pour les conseils. Nous, on se déplace dans tout l'Hérault. On va dans les hauts cantons, dans le haut Languedoc, on va autour du Salagou. On conseille des villages de 80 habitants. On vient vraiment au contact des territoires et des élus qui sont souvent un peu démunis en ingénierie locale. Oui. Voyez,
c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a la transformation d'une place publique, comme l'Esplanade ou comme la place en bas du Pérou, c'est la responsabilité de la municipalité. Ça n'est pas de votre responsabilité.
Tout à fait. La mairie de Montpellier, la ville de Béziers, toutes ces grandes villes, ne font pas spécialement appel à nous sur ça. Ils font plutôt appel à nous sur nos capacités de médiateurs et de sensibilisation.
Ça veut dire quoi, alors ?
Donc, c'est-à-dire, par exemple, accueillir des scolaires, accueillir des groupes. Par exemple, cette exposition, c'est un très beau témoignage et hommage à tout ce travail des associations qui a pu se dérouler à Montpellier sur la végétalisation des rues. Mais ça ne vient pas seulement servir le projet municipal. On n'est pas municipal, on est financé par un financement public qui transite plutôt par le département.
D'accord. Et alors, donc, dans cette exposition, on peut d'ailleurs voir d'autres grandes villes. Il n'y a pas que Montpellier.
Voilà. Alors, déjà, on dézoome avec toutes les collectivités qui sont aussi autour de Montpellier. Donc, vous avez, par exemple, le village des Matelles, qui est un village extraordinaire pour la végétalisation des ruelles dans le centre ancien, je vous invite à le découvrir, ou un village comme Vic-la-Gardiole, qui lui a été transformé plus récemment, entre guillemets, parce que c'est une intervention avec un maître d'œuvre, avec un paysagiste qui a réaménagé les rues. Là, pour le coup, c'est là.
Quand vous dites réaménager la rue, ça veut dire la redessiner, ça veut dire la refaire, ça veut dire quoi ?
C'est tout à fait, ça commence souvent par un dessin. Et puis par écouter aussi ce que veulent les élus, ce que veulent les habitants. Et ça passe par un dessin qui inclut aussi le minéral. C'est-à-dire qu'on vient faire de la place pour le végétal, mais on n'oublie pas les êtres humains qui doivent circuler quand même dans les espaces, dans les rues. Tout à fait. Et puis pour continuer le dézoom, on peut effectivement parler du fait que cette exposition, elle est co-construite avec d'autres CAUE, d'autres départements, donc notamment en Gironde, en Charente et dans la Sarthe.
Alors, je suppose que c'est aussi pour un Montpelliérain qui vient visiter la découverte d'une biodiversité qui n'est pas forcément la sienne.
Effectivement, dans le sens, on a fait une sélection des panneaux des autres CAUE pour axer sur des thématiques. Et donc, notamment...
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, parce que oui. Forcément, comme on ne voit pas...
Bien sûr, mais sur les thématiques, par exemple, sur... et on donne, c'est des panneaux qui donnent la parole aussi aux habitants, aux élus. C'est des panneaux qui sont plus thématiques sur, par exemple, remettre en valeur un village qui est tombé un peu en désuétude, faire de la place pour la biodiversité, effectivement, donc accueillir aussi ces mauvaises herbes dans le quotidien. Et on présente plus la démarche que... Et après, sur les végétaux, on a fait un focus, nous, sur la végétation méditerranéenne qui est adaptée à l'Hérault.
D'accord. Voilà. Donc, sur les autres villes, on est plus sur la manière dont ils imaginent leur ville, oui. Ou ils redessinent leur ville.
Voilà. Et puis, par exemple, il y a aussi l'Aveyron, que j'ai oublié de citer. L'Aveyron, il y a carrément tout un exemple de chantier participatif dans un village. Et là, la dimension sociale extraordinaire, la dynamique que ça redonne, que ça réinsuffle.
Alors, parlez-nous-en voilà. Un peu de cette dynamique sociale.
Oui, alors c'est à Sainte-Eulalie de Cernon, donc pour le coup, vraiment un très beau exemple de chantier participatif. Plus proche de nous, effectivement, on a des associations qui ont été pionnières à Montpellier, notamment avec la Mare Nostrum dans le quartier Méditerranée dès 2013. Ça commence avec des pots, voilà, quelque chose de très modeste. Et puis tout à coup, très vite, il y a un emballement et quelque chose qui fédère en fait les habitants. Et effectivement, des personnes qui vont venir transmettre la connaissance, se partager des astuces, se partager des boutures, et jusqu'à cette plantation plus progressive de plantes grimpantes qui voilà, viennent.
Alors,
à l'assaut des façades.
Justement, parlons un peu de ce travail de plantation, parce que finalement, ça fait partie quand même, comprendre ce qu'est une plante, hein, quels sont ses besoins. Font partie un peu de ce que vous faites passer.
Tout à fait, tout à fait. À maint titre, hein, parce qu'on fait pas mal de choses, notamment sur les arbres, parce que c'est un sujet récurrent. On a eu l'occasion de faire une formation pour des techniciens, un atelier des territoires pour les élus. Enfin, on développe beaucoup ces questions de faire un peu plus attention aux vivants et notamment aux arbres qui sont des vivants.
Justement.
Qui dépassent notre échelle de vie.
Expliquez-nous un peu. Souvent, on fait des erreurs. Par exemple, il y a une espèce de généralisation. La biodiversité, c'est planter des arbres.
Bon. Oui, non, c'est exactement. Et puis, même si c'était des arbres, le projet en question, c'est quels arbres adaptés à cet endroit.
C'est-à-dire.
Voilà. Et ben, c'est-à-dire une attention à porter au site, au lieu où lequel on va planter. Donc la rue, son orientation, ses habitants, la manière dont on y circule.
Là, on a des arbres différents à mettre en place.
Tout à fait, puisqu'en fait, souvent, on plante des arbres parce qu'ils poussent vite et qu'ils sont faciles à multiplier et que voilà, la reprise sera simple. On se pose moins la question, souvent, les paysagistes, nous, on essaie de défendre ça, de défendre le fait de choisir un arbre en fonction de son gabarit adulte. C'est-à-dire que quand on est potentiellement un vieux paysagiste, peut-être on ne le verra jamais arriver à 30 mètres de haut, mais en tout cas, on considère qu'on va lui offrir le plus possible le bagage pour atteindre son gabarit adulte. Et donc, on anticipe le fait qu'il n'y aura pas besoin de le tailler. Et
Vous venez de parler de la hauteur de l'arbre, mais il y a ses racines aussi, et ces racines vont jouer un rôle forcément sur la rue.
Oui, tout à fait. Donc, les racines, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment ce qui passe sous les radars.
Et vous y êtes sensible.
Tout à fait, et on essaye d'en sensibiliser au maximum les personnes, parce que même les techniciens peuvent avoir des fois des mauvaises habitudes. Faut savoir que les racines des arbres descendent rarement au-delà de 2 mètres de profondeur. Donc il n'y a pas cet effet de miroir que beaucoup de gens fantasment entre la partie aérienne et la partie souterraine. Et au contraire, il faut voir ça plus comme une grande toile d'araignée. Et les racines vont aller chercher, comme des têtes chercheuses, à un endroit où ils vont trouver de l'eau et des nutriments, parfois assez éloignés du tronc de l'arbre. Donc, dès qu'on commence à faire des travaux à proximité d'un arbre, on prend le risque d'abîmer son système racinaire qui est pourtant essentiel.
Alors, vous nous avez aussi parlé tout à l'heure, quand on évoquait la végétalisation, les échanges de boutures. Les gens sont très, très sensibles à ce genre de choses. Mmh. Et alors, c'est le CAUE qui devient le lieu de, où se font ces échanges.
Alors, pas directement.
Comment ça se passe, hein?
Enfin, on a quelques relations quand même avec le quartier, notamment avec l'école qui est juste à côté. On fait plein de choses avec eux régulièrement, mais non, dans le quartier à Des Arceaux, on n'est pas forcément catalyseur de ça. Les habitants le font déjà très bien entre eux.
Alors, comment ils le font habituellement? Ils le font à l'occasion dans leur jardin partagé
Voilà, il peut y avoir des jardins partagés. Il y en a de nombreux à Montpellier, ce qui est une grande force, parce que c'est aussi des lieux où il peut y avoir un compost collectif, il peut y avoir voilà, tout un tas de relais très importants.
Mais c'est pas partout pareil.
Voilà. Et après, c'est de façon assez informelle. Hein, souvent, il y a une fête des voisins, il y a voilà, ce genre de choses qui permettent de se rencontrer et de se connaître. On a eu, notamment, on a organisé une balade témoin avec Marine Ostrom dans le quartier Méditerranée. Et il y a eu un témoignage très touchant d'une femme qui expliquait qu'elle s'était faite cambrioler en pleine journée, bien avant ces histoires de végétalisation. Et donc elle s'est dit, en fait, cette manière d'occuper un peu l'espace public de façon pacifique et neutre du végétal, c'est une manière de montrer qu'on est là, que c'est un lieu habité, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en pénétrant chez les gens. Voilà. Donc, d'être en interaction avec ses voisins. Et ça, c'était très touchant de voir que ce n'est pas du micro-fleurissement pour décoratif.
C'est pas les gens sont obligés d'entretenir leurs plantes.
Et puis de se rencontrer, de se mettre d'accord. Et puis c'est un prétexte aussi à discuter. Quoi,
c'est d'accord. Génial. Donc ils se retrouvent autour de leurs plantes, en fait.
Voilà, c'est ça. Et puis de plus en plus, il y a quelque chose qui arrive par rapport à ce qu'on vient d'entendre avant sur la prise en compte de l'écologie. De plus en plus, on fait le focus sur ce qu'on appelle les mauvaises herbes, donc les plantes spontanées, pour les dire de façon gentille, positive. Pour le dire de façon positive, les plantes spontanées, on peut en garder, en fait. On n'est pas obligé d'arracher pour faire place à ce qu'on vient de planter. Nous, au CAUE, on en garde une bonne partie, ce qui donne un côté un peu fouillis. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est une panacée. C'est vraiment une bénédiction d'avoir des fois une plante qui pousse toute seule et qui est déjà adaptée, qui a germé ici. Et donc, il y a de plus en plus cette prise en compte et aussi dans les types de végétaux. On peut planter des végétaux plus... on va dire endémique, enfin voilà, ça a inspiré aussi de la nature et pas toujours aller chercher le végétal juste décoratif, aussi aller chercher des choses.
Vous voulez dire que les gens peuvent se mettre à entretenir cette mauvaise herbe?
Voilà, exactement, l'intègrent dans leur jardin, dans leur jardin d'interstice, hein, et donc c'est là qu'il y a ce programme expérimental quartier méditerranéen qui s'appelle Quartier Sauvage, qui est en lien avec Tela Botanica, le réseau de botanistes, qui voilà, propose une médiation entre des habitants qui habitent et qui entretiennent et une municipalité qui décide, qui propose en tout cas de calmer un peu le rotophile, calmer un peu l'appareil qui va dézinguer toutes les mauvaises herbes et de dire bah, non, maintenant c'est les habitants qui sélectionnent, qui choisissent, qui disent bon ben, en concertation avec la mairie évidemment, hein, mais de dire ben, cette plante là, on l'arrache pas, on la garde.
Mais comment vous faites alors par rapport aux envahissantes, par exemple, parce que elles doivent s'approprier rapidement la place?
Alors, il faut vraiment essayer de qualifier qu'est-ce qu'on entend par envahissante. Le laurier d'Apollon, qui est un habitué de chez nous, qui est considéré comme indigène, on pourrait dire qu'il est envahissant parce qu'il peut faire 10 mètres de haut, il pousse très vite, il a une belle croissance, il se multiplie, il fait des graines. Et pour autant, est-ce qu'il est envahissant ou est-ce que c'est une bénédiction? Ça dépend de ce qu'on veut en faire, du type de terrain. Donc dans la rue, effectivement, on entend souvent par exemple les figuiers aussi. C'est des plantes qui peuvent prendre du volume, qui peuvent voilà, bien s'installer, devenir... Enfin, cette question d'envahissement, elle pose la question du territoire à soi. Qu'est-ce qui est à soi, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce qu'il y a à la plante, qu'est-ce qu'il y a aux humains. Voilà. Donc.
Voilà. Alors, cette semaine, il y a eu des fabrications de bombes de graines le mercredi, et les enfants adorent ça. Alors, quel est votre conseil à vous et qu'est-ce que c'est que ces bombes de graines hein?
Oui.
Est-ce que ça a une vision pédagogique hein?
Tout à fait. Les bombes à graines, c'est toute une histoire déjà. En fait, c'est une technique agricole assez ancienne. Qui s'appelait pas forcément bombe, c'était plutôt une boule, une balle de graines, une balle de terre dans laquelle on enfouit une graine ou plusieurs graines. C'était une manière de protéger déjà des prédateurs, par exemple, ou de d'ensemencer des endroits qui étaient inondés. Donc, notamment au Japon, dans les rizières, c'est quelque chose qui avait été développé, qui a été réintroduit au XXe siècle. Et là où ça prend la dimension bombe, parce que bon, ça explose ou pas, c'est dans les années 70, à New York, on est en plein premier choc pétrolier et on a une urbanisation galopante qui s'arrête brutalement. Et là, il y a des activistes écologistes, Green Guerrillas, donc, qui sont menés notamment par Liz Christie, une femme vraiment remarquable, et qui décide de remettre en culture, remettre en jardin, en potager, des terrains qui étaient voués à l'urbanisation. Et cette idée de bombe à graines, elle surgit quand des terrains sont clôturés. Parce que, voilà, du coup, on peut jeter des bombes pour faire la nique et dire « je jardine d'une certaine manière aussi au-delà des frontières ». Et ça, c'est un message qui est très touchant, qu'on aime bien partager. Et donc après, sur la bombe à graines elle-même, voilà, c'est devenu aussi un effet de mode, un effet de
Quel conseil vous donnez aux enfants?
Alors, à tout âge, hein, c'est intéressant.
Oui, bien sûr.
Mais effectivement, il y a une petite recette qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Il faut une terre qui soit un petit peu argileuse, parce qu'on va façonner une boule quand même, un peu de compost et un petit peu d'eau, un petit peu d'humidité, voilà, pour fabriquer la boule d'abord entre ses mains. Puis après, on fait un trou. Souvent, ce qui est bien, par exemple, c'est d'avoir une baguette pour manger les nouilles, par exemple. Comme ça, ça fait un petit trou bien précis. Vous glissez les graines, parce qu'après, il y a plein de sortes de graines. Ça, c'est le moment sympa des ateliers qu'on organise, c'est de découvrir à quoi ressemble la graine d'une capucine, à quoi ressemble la graine d'une lavande. C'est pas du tout la même chose d'une graine à une autre. Donc ça, c'est déjà une grande joie de découvrir ça. Et puis, quand on a glissé les graines, on referme la boule, on la fait sécher au soleil. Et voilà, dans les jours qui suivent, on la lance quelque part, au choix.
Quelque part. Alors, voilà. Il y a encore, on va bientôt se quitter. Et donc, il y a encore des visites qui sont possibles.
Oui.
Il y a encore des événements dont vous pouvez nous parler avant le 9 juin.
Tout à fait. Alors, l'exposition se termine le 19 juin, effectivement, et entre-temps, on a encore quelques événements très intéressants, notamment le 28 mai, à 18h30, on accueille deux chercheurs qui étudient quand on désimperméabilise un terrain, c'est-à-dire qu'on enlève le goudron ou le béton. Quelle biodiversité se réintroduit dans le sol, comment ça évolue, et ça risque d'être assez passionnant parce que le travail de thèse de la jeune femme qui s'appelle Louise Aidoux a inspiré notamment une bande dessinée sur la vie du sol, donc c'est assez inspirant de ce point de vue là. Et puis, il y a surtout, pour le grand public, une balade au fil des jardins qui s'inscrit dans la grande manifestation nationale qui s'appelle Rendez-vous au jardin, le 6 juin, le matin, à 9h30. Une balade qui commence au CAUE et qui vous propose une déambulation dans différents jardins publics de Montpellier, mais aussi quelques coins un peu cachés qui sont gérés par exemple par des associations. Donc on est en lien avec ces associations pour vous ouvrir les portes de ces jardins très intéressants.
Très bien. Et moi, je rappelle qu'on peut obtenir, donc, pour garnir ces rues, des bons de végétalisation auprès de la mairie de Montpellier. Il faut s'adresser à M. Jouot et on demande des bons de végétalisation. On va ensuite choisir son arbre chez un botaniste ou sa plante chez un botaniste. Et puis, on a les conseils ensuite pour le faire au mieux possible. Donc, Montpellier est une ville en pointe sur la biodiversité pour vous ?
C'est une question intéressante parce que Quartier Sauvage, justement, c'est une belle expérience.
Et vous pensez que ça peut devenir un label ?
Un label, oui.
On pourrait retrouver partout ?
Effectivement, Quartier Sauvage, c'est un dispositif expérimental, scientifique, qui est expérimenté dans différentes villes. Donc, à suivre, effectivement.
Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. J'invite tous nos auditeurs à profiter des derniers jours de l'exposition au CAE et surtout de rencontrer des gens comme vous qui pourront les initier un petit peu à cette richesse qu'est la biodiversité. Merci, Jérémy.
Merci de votre accueil.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.